Voilà, bah écoutez, c'est un plaisir d'ouvrir la parole de Dieu à Marc chapitre 2. Je vous invite à ouvrir vos bibles à Marc 2. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le bulletin à cause de moi. J'ai envoyé le mauvais titre. Le titre que vous avez n'est pas le bon titre. Le bon titre de ce message ce matin est « Jésus, le jeûne et les rituels religieux ». Jésus, le jeûne et les rituels religieux. Juste avant de lire le texte, vous vous rappelez la dernière fois, il y a deux semaines de cela, nous avons examiné chapitre 2 à partir du verset 13, où nous avons vu l'appel de Matthieu. Jésus appelle Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, et nous avons regardé trois des quatre caractéristiques de sa vie. On a vu, tiré de cet exemple de son appel, qu'un disciple suit Jésus. On a vu comment cet homme a été appelé par Jésus. Il l'avait déjà rencontré certainement. Et lui, en tant que publicain, il a quitté son poste de péage et a suivi Jésus pour jamais ne retourner à ce métier d'avant. Donc ça, c'était le fait qu'il a suivi Jésus. Deuxièmement, nous avons vu qu'un disciple renonce au péché. Il a vraiment tourné le dos à ce mensonge qu'il vivait, où il volait les gens par son métier malhonnête. On n'a pas dit que d'être percepteur d'impôts est un métier malhonnête, mais la manière que lui le faisait était malhonnête. Et troisièmement, on a vu qu'un disciple aime ses amis. Et là, on a vu que Matthieu, première chose qu'il voulait faire, c'est d'amener tous ses amis pour qu'ils rencontrent Jésus. Et donc, il y a eu une grosse fête. Et aujourd'hui, nous voulons voir le quatrième point, le quatrième trait d'un disciple, c'est le fait qu'un disciple lâche les rituels religieux. Et là, nous allons voir maintenant ce rituel, ce sujet du jeûne qui surgit. D'accord ? Donc je vais lire à partir du verset 15 pour nous mettre un petit peu dans le bain. D'accord ? Donc Matthieu vient de se convertir, il est avec Jésus, il appelle tous ses amis. Voici ce qui se passe, Marc 2, 15. « Comme Jésus était à table, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc ça, on a déjà vu la dernière fois. Maintenant, le texte nouveau commence à partir du verset 18. « Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. » Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Intéressant ce texte. Alors, notez que dans les versets 16 et 17, on l'a déjà lu, que Matthieu fait la fête chez lui, il invite ses amis et Jésus est là. Nous apprenons que les scribes et les pharisiens sont aussi présents en tant qu'espions, certainement. Et eux regardent, ils guettent ce qui se passe. Et dans nos textes, on voit qu'à un moment donné, les scribes et les pharisiens sont choqués du fait que les disciples de Jésus ne respectent pas un de leurs rites religieux, celui du jeûne. Alors, pour nous aider et nous guider dans notre étude ce matin, j'ai quelques points. Premièrement, tout simplement, la question étrange sur le jeûne. La question étrange sur le jeûne. Le verset 18 dit, les disciples de Jean, donc les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Ça, c'est une drôle de question, là. Je résume. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens posent cette question. Pourquoi nous jeûnons-nous, tandis que toi, Jésus, et tes disciples en particulier, tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Au contraire, ils sont en train de faire un festin chez Matthieu. Pourquoi ne jeûnent-ils pas comme nous ? Alors, essayons de comprendre ce qui se passe ici, d'accord ? Premièrement, qui pose la question ? Les disciples de Jean-Baptiste. Alors, on recule un petit peu, vous vous rappelez, lorsque Jésus est apparu sur la scène, Jean-Baptiste, on l'a lu ce matin, crie dans le désert, et parlant du Messie qui allait venir, lorsqu'il a vu Jésus, il a baptisé Jésus, et nous savons qu'un certain nombre des disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus à ce moment-là. C'est ce que Jean-Baptiste a suggéré. Lui, il a dit, moi, il faut que je baisse, et que Christ prenne l'importance, parce que Christ est le Messie. Mais on sait que tous les disciples de Jean-Baptiste n'ont pas suivi Jésus à ce moment-là. Par exemple, dans Actes 19, bien plus tard, on apprend qu'il y avait à Éphèse, longtemps après la mort de Jésus, des disciples de Jean-Baptiste qui n'avaient pas encore évolué dans leur compréhension de la venue de Jésus. Ces disciples étaient encore quelque part des croyants de l'Ancien Testament. Ils étaient encore attachés à certaines lois cérémoniales juives, dont celle du jeûne. Donc, certains disciples de Jean-Baptiste posent cette question. Ensuite, on voit que les pharisiens, c'est un parti religieux juif qui se conformait à une observation rigoureuse de leur interprétation de la loi de Moïse, sont aussi là. Et disent, pourquoi dans notre camp tout le monde jeûne, et toi Jésus, tes disciples, ils font la fête? Apparemment, ils faisaient la fête lors d'un jour de jeûne sur le calendrier pharisianique juif. Deuxième point. La définition du jeûne dans la Bible. Pour comprendre ce qui se passe ici, je vais vous expliquer, on va faire un parcours de la Bible sur le jeûne. Ça, c'est intéressant, d'accord ? Alors ça, c'est très important ce que je vais vous dire. L'Ancien Testament prescrivait un jour de jeûne par an. C'est le jour des expiations, le Yom Kippour, c'est tout. C'était la seule prescription d'un jeûne. Dans Lévitique 23, à partir du verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour et le septième mois sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation. » Voici la clé, la phrase clé. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors, la phrase dans Lévitique 23, 27, vous humilierez vos âmes, veut en fait dire jeûner. Tous les commentateurs sont d'accord de dire que cette phrase veut dire jeûner. Et on le sait parce que même le Mishnah, qui est un livre d'interprétation juive comme le Talmud, dans le Talmud, dans le chapitre Yoma 8.1, utilise cette phrase aussi pour décrire le jeûne. Donc on voit que le jeûne prescrit ce jour-là, dans l'année, était lié à l'affliction. Le jour des expiations, c'était le jour où on s'humiliait par rapport à notre péché, on faisait un sacrifice en vue du futur Messie qui viendrait ôter le péché du monde. Et ça, on le refaisait chaque année. Et ce jour-là, on jeûnait comme signe d'humiliation. Ça veut dire qu'on ne mangeait pas, on ne buvait pas. Alors, si ça, c'était le seul jour prescrit dans la Bible, bien sûr, il y avait beaucoup d'autres occasions de jeûne. Les gens étaient libres de jeûner lorsqu'ils voulaient, par exemple. Là, je ne vais pas regarder tous les versets, bien sûr. En temps de guerre ou de menace de guerre, dans Juges 20 ou 1 Samuel 7, les gens ont décidé de jeûner. Lorsqu'un proche était malade, en 2 Samuel 12, certains ont jeûné. C'est intéressant, dans le psaume 35, je vais vous lire quand même ce verset, je l'ai trouvé intéressant. Il y avait un jeûne, enfin, c'était une possibilité de jeûner, par rapport à un ennemi. Dans le psaume 35 et le verset 11, « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et je priais la tête penchée sur mon sein. » Donc là, on voit que face à un ennemi, certains jeûnaient pour lui, c'est ce que David a fait ici. Lorsqu'un proche mourait, on pouvait jeûner, 1 Samuel 31, 1 Roi 21. On jeûnait lorsqu'il y avait un danger, Ezra 8, 21. Là, c'était en fait, on demandait au peuple, est-ce que vous voulez jeûner, hein? Esdras 8, 1, voici les chefs des familles et les généalogies. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est Esther, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé, d'accord? Esther, où es-tu Esther? Voilà, Esther 8.1, excusez-moi, 8.1, ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la main d'Aman, l'ennemi des Juifs. Non, c'est le 8.21. 8. Décidément, non, c'est Esdras, Esther 4.3, et j'y arriverai, d'accord? Il faut que je lise mes notes un peu mieux, d'accord? Esther 4.3. Voilà, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et de son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Ce qu'on voit tout simplement, c'est que le jeûne était souvent lié à une sorte de désolation, à une tristesse, à une humiliation. Il y a des exemples de jeûne dans le Nouveau Testament, ça vous le savez. Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a jeûné pendant combien de jours? 40. Donc Jésus a jeûné. Matthieu 4, 1 à 9. Jésus a renseigné sur le jeûne, on verra dans quelques minutes. Jésus a dit dans Matthieu 17 que certains démons ne sont chassés que par la prière et le jeûne. Ça c'est intéressant. Dans Matthieu 17, 21. L'église d'Antioche a jeûné avant d'envoyer des missionnaires. Dans Actes 13, versets 1 à 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit que les églises de Galates ont jeûné dans Actes 14. Les apôtres ont jeûné dans 1 Corinthiens 6. Paul jeûnait de manière régulière, nous dit 2 Corinthiens 11, 27. Bref, tout ce qu'on est en train de voir, c'est que le jeûne, bien qu'il n'était prescrit qu'une fois comme obligation, était une chose qui se pratiquait dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le but du jeûne, on l'a vu, vraiment une sorte de réaction naturelle à l'affliction, à la tristesse, au deuil, au chagrin. Souvent, il était exprès pour aider l'affliction de l'âme, comme on a vu dans le psaume 35-13. Une manière, une sorte d'intensifier, si on veut, sa communion avec Dieu. La nature du jeûne, ben, c'est simplement de s'abstenir de la nourriture pendant un temps, parfois avec une abstention d'eau, parfois pas. Parfois, c'était une restriction totale de nourriture. Parfois, c'était une restriction partielle de nourriture. C'est intéressant pour la durée des jeûnes. Combien de temps est-ce que les gens jeûnaient dans la Bible? Ben non, Juges 20, 26 et 1 Samuel 14, 24, ils ont jeûné un jour. Dans Esther 4, 16, ils ont jeûné trois jours. Dans 1 Samuel 31, 13 et 1 Chronique 10, 12, ils ont jeûné 7 jours. Et Jésus a jeûné 40 jours. Alors c'est quoi la conclusion? J'ai fait un survol rapide. C'est quoi la conclusion par rapport au jeûne? Bien, dans le Nouveau Testament, puisque nous ne célébrons plus le jour des expiations comme il était prescrit dans l'Ancien Testament, du fait que nos péchés ont été expiés par Jésus, le Messie, et que cette fête annonçait la venue du Messie, mais maintenant qu'il est arrivé, qu'on est pardonné, le jeûne n'est plus une obligation. C'est un privilège très différent. Il n'y a aucune injonction dans le Nouveau Testament qui oblige le jeûne. Mais, pour Jésus, on le verra dans quelques instants, c'est une évidence que les chrétiens jeûneraient de temps en temps. Matthieu 6, 16. Et nous voyons que c'était la coutume de certaines églises de jeûner. Alors ce qu'il faut savoir, ce n'est jamais imposé, jamais. C'est quelque chose de privé entre moi et Dieu. L'église peut faire appel, suggérer un jeûne, mais ne peut pas l'obliger. Chacun doit répondre comme il veut par rapport à cela. Nous sommes libres. Avec ça, il faut revenir maintenant à notre texte. Vous rappelez, on était dans un texte dans Marc 2. Revenons à Marc 2, et verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et ils vinrent à dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? 3. La tradition juive du jeûne. C'est la clé du texte. Écoutez bien. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une prescription de jeûne, un jour, le jour des expiations. Mais la tradition juive promulguée par les scribes et les pharisiens a malheureusement ajouté à cette prescription l'obligation de jeûner, tenez-vous bien, 2 fois par semaine. Allons-y, Luc 18, allez avec moi, Luc 18, vous allez voir. Luc 18. C'est une parabole de Jésus qui dit ceci. Luc 18 au verset 9, il dit encore une parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Voici la parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi et lui dit même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. » Wow! « Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus conclut, je vous le dis, celui-ci, donc le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous ? Les pharisiens ont décidé de créer une règle humaine. 2 jeûnes par semaine. Et c'est devenu la norme. Et en devenant la norme, c'est devenu une sorte de mesure de spiritualité. Ce n'était pas biblique, mais c'est devenu une mesure de spiritualité. C'était la tradition juive. Alors, allez avec moi à Matthieu 6 maintenant. Matthieu 6. Vraiment important qu'on y aille parce que vous verrez, c'est encore la clé. Tout est une clé ici. Matthieu 6. Jésus, justement, parle du jeûne. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 16, c'est incroyable. Il dit, lorsque vous jeûnez, alors on s'arrête là. Jésus parle à ses disciples, il dit « lorsque vous jeûnez ». Donc, ce n'est pas une obligation de jeûner, mais cette phrase implique qu'il pense qu'un disciple jeûnera. C'est une norme. Ça va se faire à un moment donné, on va jeûner. Si, lorsque vous jeûnez. Ce n'est pas si vous jeûnez, pas quand vous jeûnez, c'est lorsque vous jeûnez, d'accord ? Quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez. Ensuite, il dit « ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, Jésus ici veut montrer le problème de la compréhension juive du jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Bien sûr, il parle des scribes et les pharisiens ici. Le contexte, 5:20. Et voyez, avec ces règles sur le jeûne et bien d'autres règles religieuses, ils ont tordu les exigences de l'Ancien Testament. Le jeûne était devenu un rituel pour gagner un mérite de Dieu et pour attirer l'attention des hommes. On jeûnait pas pour avoir une relation intense avec le Seigneur, on jeûnait pour se faire passer plus spirituel que les autres. C'est quelque chose qu'on voulait montrer aux gens. Verset 5 de Matthieu 6, regardez, pareil pour la prière, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est intéressant. Deux jeûnes par semaine, ça équivaut à 112 jeûnes par an. C'est beaucoup plus qu'une fois par an. Pourquoi deux fois par an ? Parce qu'ils pensaient que, puisque la loi de Moïse a été donnée deux fois, une fois à Moïse, brisée, redonnée, que ça correspondait à deux jeûnes. Vous me dites, où est-ce qu'ils ont sorti ça ? Je vous réponds, j'ai aucune idée. Mais voilà leur raisonnement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux jours de jeûne, selon les historiens, comme par hasard, étaient imposés la semaine lors des deux jours où le marché juif était les plus grands dans la ville. Comme ça, ils pouvaient se promener et avoir une audience encore plus grande par rapport à leur rite religieux. Verset 16, dans Matthieu 6, « Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Ils voulaient attirer l'attention qu'ils jeûnaient, s'habiller de vieux vêtements, parfois déchirés, salis exprès. Ils se défaisaient les cheveux, se couvraient de terre et de cendres, et même parfois se maquillaient le visage afin de paraître un peu malade. « Oh, regarde-moi, je jeûne !» C'est un peu ça, quoi. C'est intéressant, le mot hypocrite, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire masque. Ils se masquaient. Vraiment, c'était des hypocrites, là. Alors, est-ce que c'est un problème, disons, de jeter des cendres sur soi si on veut jeûner ? Non, ça se faisait dans Jonas 3:5, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas mal de le faire. Vous voyez, la question, c'est le mobile et le motif. C'est l'attitude du cœur. Quelle est la raison pour laquelle ils jeûnaient ? Ben eux, c'était pour se faire voir comme étant hyper spirituel. Alors les principes sont simples. On ne jeûne pas pour être vu des hommes, pour nous faire passer comme plus spirituels les autres. Et c'est toujours un peu compliqué avec le jeûne, parce que si on annonce à quelqu'un, ouais, moi je jeûne, tout d'un coup, on pourrait dire, ben moi pas. Tout d'un coup, on se sent peut-être un petit peu, il y a chrétien, puis ensuite il y a chrétien secondaire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est le genre de choses que... Alors, est-ce que c'est un mal de dire à quelqu'un qu'on jeûne ? Ben, c'est tout dans l'attitude du cœur et comment on le fait. On ne doit jamais jeûner mécaniquement, c'est ce qu'il est dit ici. Et on ne jeûne pas pour recevoir quelque chose de particulier de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme d'investissement. Je jeûne, il va me répondre plus intensément. Ce n'est pas nécessairement vrai. C'est pour ça que le jeûne est souvent lié simplement à une tristesse. C'est souvent comme ça, ça on le verra dans quelques instants encore. Quand on est triste, d'habitude on n'a pas envie de manger. Alors, c'est intéressant que l'Église catholique a malheureusement fait pareil. Peut-être certains de vous êtes issus de l'Église catholique. Ils ont fait la même erreur au IVe siècle, quand le christianisme est devenu la seule religion acceptée dans l'Empire romain, que l'institutionnalisme de l'Église a accentué la forme, le rituel et la liturgie, ben, c'était le début des gros problèmes de l'Église. Parce que les premiers siècles, l'Église catholique était l'Église universelle. Elle était biblique, elle était bien, elle prêchait l'Évangile. Mais c'est avec le temps, surtout à partir de Constantin, dans le IVe siècle, que les abus sont vraiment devenus apparents. Le jeûne, par exemple, est devenu de plus en plus attaché à la théologie légaliste du concept des bonnes œuvres méritoires. Par exemple, les deux jours de jeûne que les Juifs pratiquaient sont devenus au IVe siècle, dans l'Église catholique, l'observation de 40 jours, puis 46 jours de jeûne du carême. Ça, c'est une période d'abstinence et de privation, à l'exception, bien sûr, du dimanche. Et ça, entre Mardi Gras et le jour de la Pâque. Pendant le Moyen-Âge, un certain nombre d'autres jours de jeûne ont été ajoutés à ceux-ci. La période des quatre temps, à chacune des quatre saisons, devait comporter 3 jours de jeûne et de prière. Puis il y avait l'Advent, qui aussi a été ajouté au Moyen-Âge, avec toute une série de jeûnes. Puis le vendredi avait été décrété comme jour de jeûne particulier, où seul le poisson devait être mangé au lieu de la viande. C'était à un moment donné considéré un péché mortel de manger de la viande le vendredi. Mais en 1958, le pape Jean XXIII a changé ce dernier décret afin de permettre aux catholiques dans le monde une dispensation particulière et leur a permis de manger de la viande le vendredi 26 décembre de cette année, le jour après Noël, à cause des festivités de Noël. Puis dans les années 60, suite à Vatican II, certaines de ces règles ont de nouveau été modifiées. Alors bien sûr, on en comprend lorsque la réforme est arrivée, Calvin, Luther, Zwingli, ils sont revenus à la lecture de la Bible, ben ils ont vu exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais la Bible, elle dit quoi sur le jeûne? Tout ça? Non. Ça, ce sont devenus des règles humaines. C'est pour ça, mes amis, que c'est vraiment important que nous soyons le peuple de la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alors, 4. La réponse de Jésus concernant le jeûne. Retournons à notre texte. Marc 2. Maintenant, les choses viennent vraiment claires. Nous, les pharisiens, on jeûne. On a tout compris dans l'attitude. Tes disciples, Jésus, ils font la fête. On a tout compris là. L'attitude. Les disciples de Jean-Baptiste, eux, c'était simplement qu'ils n'étaient pas au courant encore. Ça, on le voit dans Acte 19. Et ça, ils ont compris plus tard qui était Jésus. Mais pour les pharisiens, c'était vraiment du traditionnalisme. Et ça montre aussi que les disciples de Jean étaient dans le mécanisme des pharisiens. Ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait en sortir. Alors, quelle est la réponse de Jésus? C'est tellement simple. Regardez, ça va très vite. Verset 19. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Donc il donne 3 illustrations. La première, c'est sur le mariage. Matthieu 9, 15, le passage parallèle, est très bien parce qu'il dit ceci. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils être affligés pendant que l'époux est avec eux? Voyez-vous, ici, Jésus leur explique le vrai sens du jeûne. Le jeûne n'était jamais prescrit dans la loi comme moyen pour montrer à quel point on était religieux. Non, le jeûne était lié à l'affliction. Le jeûne était un moyen naturel d'exprimer avec intensité une profonde tristesse, un cœur lourd, un vouloir de prier, de communier avec Dieu de manière intense. Alors ici, il dit, voilà, il y a un mariage. Il y a un mariage. Lorsqu'un époux se marie, on fait la fête. Vous n'êtes pas d'accord ? Les mariages, c'est trop bien. Il y en a eu 2 récemment dans l'église. C'est la fête. Et il y a beaucoup de nourriture et tout le monde mange. En Israël, les mariages duraient 7 jours de festivité et on mangeait bien. Alors tout le monde est joyeux, dit Jésus. Il célèbre, c'est merveilleux. Est-ce qu'il est, je vous pose la question, est-ce qu'il serait approprié de déclarer à tout le monde, moi je jeûne à ce mariage, je ne peux pas manger votre festin? Ce serait vraiment étrange, quoi, d'accepter d'y aller et ensuite de dire « Non, je ne peux pas manger, je jeûne. » Jésus dit, mais c'est un moment inapproprié de jeûner. On ne jeûne pas pendant un mariage. On fait la fête et on mange pendant un mariage. Mais il dit au verset 19, aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. Imaginez qu'après ce mariage, il y a eu le festin, ce même époux venait par une terrible tragédie de disparaître ou de mourir pour une raison ou une autre, juste après le mariage. Quelle serait la réaction des gens qui avaient été au mariage? Est-ce que vous croyez qu'ils vont ressortir tous les restes et faire la fête? Non, ce serait inapproprié à ce moment-là de faire la fête. On jeûnerait. Dans le deuil, dans la tristesse. On ne fait pas la fête avec un festin lorsqu'on est dans le deuil. Ça, c'est un moment approprié pour jeûner. Bien sûr, Jésus fait un parallèle avec lui-même. Il y a le festin chez Matthieu, Jésus est là, c'est l'époux. Il est là à présent, donc soyez dans la joie et profitez du festin, je suis là. Mais le jour viendra, Jésus dit, où je serai enlevé, je serai crucifié, je ne serai plus là. Alors là, vous pouvez jeûner. Quelle est la leçon ici? C'est simple, les pharisiens avaient construit une religion faite de traditions et de rituels externes. Le jeûne pour eux était devenu une marque de spiritualité, pas un geste spontané d'un cœur transformé par l'amour et le pardon de Dieu. Jésus ici dit aux disciples de Jean et aux pharisiens que le chrétien authentique laisse tomber les rituels externes et les traditions des hommes. À la place, il adore son Seigneur en esprit et en vérité, selon la parole de Dieu. Deuxième illustration, le drap. Regardez verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce du drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. C'est une drôle d'illustration. Écoutez, elle est vraiment, elle est géniale. Tout ce que Jésus dit est génial. C'est inspiré, bien sûr. C'est Dieu qui parle. Alors, messieurs, peut-être vous ne savez pas ça, comme moi, je ne sais pas trop ces choses. Mesdames, je suis sûr que vous savez, d'accord? Les habits neufs rétrécissent au lavage. Est-ce que c'est vrai? D'habitude. Bon, maintenant, ils ont les nouvelles techniques, ça rétrécit moins. Mais globalement, des nouveaux habits au lavage rétrécissent. On est d'accord? Les habits vieux sont déjà rétrécis. Eux ne rétrécissent pas. Est-ce qu'on est tous d'accord? Maintenant, que se passe-t-il si vous devez coudre un patch sur un habit vieux? Vous êtes tombé, t'as gros trou dans votre pantalon. Donc, vous décidez de mettre un bout de tissu neuf comme patch sur un vieux pantalon. Eh bien, lors du prochain lavage, le tissu nouveau, cousu sur le trou, va rétrécir et va déchirer le tissu vieux qui est déjà rétréci. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus n'est pas un nouveau patch à coudre sur les vieux vêtements de la religion juive. On n'ajoute pas Jésus aux traditions humaines. Non. Il n'est pas venu pour réformer les pharisiens ni le judaïsme. Il est venu montrer l'intention biblique de la volonté de Dieu. Une toute nouvelle manière de voir les choses par rapport à ce qu'il voyait. Christ devient sauveur. Christ transforme ta vie complètement. Tu te repens. Christ sauve comme Matthieu, comme pour Matthieu, et les rituels de la religion humaine, on les laisse tomber. On ne peut pas prendre l'évangile du pardon des péchés par la foi et la bonne nouvelle de l'évangile, on ne peut pas les coller sur un vieux système. Troisième illustration. Verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Moi, je trouve ces illustrations, elles sont tellement majestueuses, quoi. Alors, c'est quoi cette histoire d'outres de vin? Les outres de vin, autrefois, étaient faites de peau de chèvre ou de mouton. On tuait le mouton, On traitait la peau, on enlevait les poils, on retournait la peau, on attachait un cordon aux ouvertures des pieds, on faisait du cou de cette peau l'ouverture et l'outre était prête. Le vin nouveau, alors je suis pas un spécialiste, d'accord, mais je crois que on le sait, le vin nouveau fermente qui provoque l'expansion de l'outre. Donc une nouvelle outre avec du nouveau vin, quand le vin fermente, d'accord, donc le vin fermente et la peau, puisqu'elle est neuve, elle est flexible, elle tend avec la fermentation du vin. Parce que la peau est élastique. Mais, si du vin mis dans une vieille outre déjà sèche, la fermentation du vin nouveau et l'expansion des gaz, ben, puisque l'outre elle est vieille, elle va craquer et on va perdre tout le vin. C'est quoi la leçon ? De nouveau que Jésus-Christ est son message du pardon des péchés et le vin nouveau. Les outres vieilles sont la religion morte des rituels et du judaïsme. Ici, l'imposition de ces jeûnes. On n'ajoute pas le vin nouveau dans les vieilles outres de la religion des rituels juifs. On met le vin nouveau dans les outres neuves. Christ rentre dans une vie et la transforme. Et l'expansion de notre nouvelle vie en Christ se voit par cette transformation. Et les rituels du passé sont lâchés et abandonnés. Exactement comme pour Matthieu. Et le résultat, mes amis, d'une personne qui rencontre Christ va être fulgurante, comme pour Matthieu. Regardez avec moi 2 Corinthiens 5, 17. Quel beau résumé de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Regardez. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Ça veut dire que si un jour vous avez reconnu que vous êtes pécheur, vous avez reconnu que par vos propres bonnes œuvres, comme les pharisiens l'enseignaient, que vous pensez que vous pouviez mériter quelque chose de Dieu. Si un jour vous avez réalisé que c'était impossible, parce que vous êtes pécheur, vous êtes condamné par Dieu, et vous ne pouvez rien faire pour vous améliorer assez bien pour mériter de Dieu sa bénédiction, parce que Dieu est saint et on ne peut pas par nos propres efforts devenir saint, c'est impossible. Donc il n'y a qu'une solution, c'est de reconnaître qu'on n'y arrive pas. Seigneur, je n'arrive pas, j'ai essayé toute ma vie, mais la religion, les prières, les jeûnes, les pèlerinages, tous les trucs, j'y arrive pas. Seigneur, je réalise que je suis pécheur, ça c'est bien. Que dois-je faire ? Dieu répond, mon fils est mort pour tes péchés. Demande-lui de te pardonner ton péché. Et si tu fais ça, tu es en Christ. Parce que Christ rentre dans toi. Comme le vin dans l'outre. Toi, tu es la nouvelle outre. Le nouveau vin rentre en toi. Et là, Dieu, attention, il va commencer à changer ta vie. Parce qu'il pardonne ton péché. Et maintenant, tout ce qui était péché en toi va commencer à changer. Et des fois, il change les choses radicalement vite. Si quelqu'un est en Christ, regardez, verset 17, c'est trop génial. Il est une nouvelle création. On est tout nouveau, mes amis. Tout nouveau. Les choses anciennes sont passées. Tous ces rites religieux, tout ce truc lourd, c'est passé. T'es libre maintenant. T'es libre d'adorer Dieu en esprit et en vérité, Jean 4. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 2:20, écoutez, 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le christianisme. C'est pas des rituels, c'est Jésus-Christ qui rentre en moi et qui vit sa vie en moi. Et si vous faites ça, si vous étiez dans un système religieux de rituel, très vite ces choses vont commencer à changer. Pour terminer ce matin, j'ai invité quelqu'un à venir. J'aimerais lui poser quelques questions. Anne-Marie vient. Certains de vous connaissez bien Anne-Marie, d'autres connaissez moins bien Anne-Marie. Anne-Marie est une personne remarquable et discrète. Elle est fidèle au poste, c'est elle qui s'occupe de l'accueil de l'église. Viens Anne-Marie. Ça va?
Oui.
D'accord. Oula.
Oui.
Ça va?
Oui.
D'accord, super. Il faudra bien parler assez fort, hein, d'accord. Alors, la raison que j'ai demandé à Anne-Marie de venir, c'est parce que j'aimerais lui poser quelques questions. Et je parie que beaucoup de vous ne savez pas quel est le lien entre ce message et Anne-Marie. Vous allez découvrir très vite. Premièrement, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous dire de quel pays tu es?
De la Suisse, de Genève.
D'accord. D'origine genevoise.
Oui, bonne genevoise avec un bernois et une mère d'origine fribourgeoise.
Ah oui, et tu parles suisse allemand?
Non.
Ah d'accord. Okay. Alors, je vais te poser la question, depuis combien de temps habites-tu à Genève?
Ah, depuis ma naissance.
D'accord. Mais tu n'as pas toujours habité ici, mais on y reviendra dans quelques minutes. D'accord? Ok, très bien. Et alors, ces dernières années, tu faisais quoi à Genève? Tu avais un métier, d'accord? Tu es à la retraite,
oui,
je crois, aujourd'hui.
Je suis à la retraite.
Mais quel métier est-ce que tu faisais juste avant ta
retraite? J'étais infirmière de santé publique.
D'accord. Donc, pour l'hôpital de Genève, c'est ça?
Non, pour le service du personnel de l'État de Genève, excepté ceux qui travaillent à l'hôpital.
D'accord. Ok, super. Alors, on se connaît depuis combien de temps, environ?
Depuis que tu es venu à Genève.
Ah oui, donc ça fait quand même pas mal de temps. Hein.
Oui.
Ça fait quoi, 18 années à peu près?
17, 18 ans? 10, ouais,
ouais, ça fait longtemps. D'accord, ok, super. Alors, la prochaine question, depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes cette église ou l'église de la Servette avant?
Eh bien, la Servette depuis 93, 93, d'accord. Et puis là, depuis que ça a commencé.
Ok, super. Donc, on se connaît vraiment très très bien. Alors, Anne-Marie, tu as grandi en tant que catholique.
Oui.
À quel moment est-ce que tu penses que tu t'es convertie à Jésus-Christ?
En novembre 1959.
D'accord. En 1959, c'est clair, c'est là où tu t'es converti à Jésus-Christ.
Oui.
Tu as fait ce qu'on a décrit ce matin, Christ est rentré en toi,
oui.
Il t'a pardonné tes péchés,
oui.
Tu as reçu la vie éternelle,
oui.
Tu l'as reçu par la foi.
Oui,
super.
Après avoir lu la Bible.
Ça c'est une bonne chose.
Toute
tu as lu
la Bible.
Toute la Bible.
Du premier verset du premier chapitre, verset du dernier chapitre de la Bible.
Donc c'est en lisant la Bible que tu as réalisé.
Oui.
Que tu étais pécheresse?
Voilà.
Et que tu
devais... si un Dieu existait, ça ne pouvait être que celui qui était décrit dans la Bible.
D'accord, super. Alors, en 1965, tu as pris une décision étonnante dans ta vie. Laquelle?
Je suis entrée au noviciat des sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Saint-Brieuc, en Bretagne.
Donc ça veut dire que tu étais sœur?
Je suis devenue sœur.
Nonne.
Religieuse, oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Nonne,
bon,
religieuse, sœur?
Disons que nonne a un aspect un peu péjoratif, souvent.
D'accord.
En français.
Ok.
Pas en anglais.
D'accord. Donc, tu es devenue vraiment sœur?
Oui, j'ai fait le postulat 6 mois, j'ai pris la bille, et ensuite j'ai prononcé mes premiers vœux au bout de 2 ans.
D'accord, des vœux, tu peux nous expliquer un petit peu comment...
Alors, c'est des vœux de... On promet d'être pauvre, chaste et obéissant la première fois pour 3 ans.
D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu es devenue nonne? Oh, excuse-moi, sœur, religieuse. Non, c'est vrai, c'est l'anglais, c'est l'habitude de l'anglais, d'accord.
Bon, parce que je voulais... j'avais consacré ma vie à Dieu et que je voulais à la fois avoir du temps pour... consacré à Dieu, vraiment, mis à part pour Dieu, et en même temps pouvoir travailler dans ma profession pour Dieu.
D'accord. Donc pour toi, c'est un moyen de vraiment servir Dieu.
Oui.
Et tu étais, ça tu as toujours dit, tu étais chrétienne à ce moment-là.
Oui.
À quel moment est-ce que tu t'es convertie, même en tant que religieuse?
Parce que ma mère était catholique, ne connaissait que le catholicisme, mais était vraiment convertie. Donc pour moi, le catholicisme, c'était le catholicisme de ma mère. Il n'était pas en opposition avec la Bible, donc je suis redevenue catholique. Mais au point de vue théologique, je dirais que j'ai jamais été très catholique. J'ose m'exprimer ainsi.
Oui, c'est assez clair. Donc en fait, alors, il y a une sorte de crise qui est arrivée dans ta vie. Tu étais maintenant chrétienne née de nouveau, oui. Mais tu étais religieuse. Et avec le temps, tu as commencé à avoir un problème dans ta conscience, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous expliquais le genre de choses qui t'ont fait, qui t'ont rendu
insupportable. Il y avait un certain nombre de règles, bien sûr, qu'il fallait suivre. Certaines étaient ridicules, mais... J'avais conscience qu'elles étaient très temporaires, comme l'habit, rien. J'avais un habit assez spécial, mais bon.
Attends, on va arrêter juste là. Est-ce que vous voulez voir des photos? c'est trop... Regardez. Alors, on va regarder. Alors, voilà. Donc, ça, c'est... Tu peux nous
alors,
décrire.
Alors, là, c'est ma maman. Et puis, là, j'ai le costume que blanc, enfin, avec un peu compliqué, que je portais après ma première profession.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'était en 68.
D'accord. Prochaine photo.
Alors ça, c'est juste un peu avant. C'est en Bretagne. Et c'est la chapelle du noviciat. Et moi, je suis la deuxième... silhouette.
Ah, donc t'es là?
Tout en avant, qui s'avance vers l'hôtel. Alors, nous sommes deux, celle qui est devant moi et moi juste derrière, et nous nous avançons vers l'hôtel. Il y a l'évêque du lieu qui va recevoir nos premières professions. Et puis, celles qui suivent, il y a la maîtresse des novices, la supérieure de la communauté où on était, et puis la supérieure provinciale. Donc, des autorités. Et on avait le monseigneur du lieu parce que ma compagne était originaire de Saint-Brieuc, de la région de Saint-Brieuc, d'où nous étions.
D'accord. Alors, passons à la prochaine photo.
Alors, ça, c'est en septembre 69. C'est à Rome. Le costume s'est simplifié. Et là, je suis au sommet... du dôme de Saint-Pierre, tout en haut du dôme de Saint-Pierre, il y a eu un point de vue, et ça c'est mon oncle qui m'a photographié.
D'accord, encore une ou deux photos, je crois.
Et ça c'est dans l'allée qui monte, la grande avenue qui monte à la place Saint-Pierre. Alors il y a ma mère et une tante.
D'accord. Et là je crois que c'est ma préférée, la dernière, regardez-moi. Ah non, c'est la prochaine encore.
Ah.
Ça c'est qui ça?
Alors ça, c'était un professeur que j'avais à l'Institut Pontifical d'Études Arabes. Il porte...
T'as étudié l'arabe?
J'ai fait 2 ans d'arabe littéraire, c'est-à-dire que je ne sais rien.
Ah d'accord, ok.
D'accord,
okay. Hein? Bon, moi, c'est clair.
Nabil peut confirmer. Hein? Par contre, ce qui est très utile, c'est que j'ai étudié la civilisation, la religion musulmane, et puis le système de raisonnement... disons, arabe, est semblable à celui en hébreu. C'est des raisonnements sémitiques, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses dans la Bible.
Alors, je crois que la prochaine photo, c'est ma préférée.
Ah!
À côté d'un deux chevaux. On dirait un film de Louis de Funès, ouais. Là. C'est super.
C'est un de nos professeurs qui avait la deux chevaux. Les trois autres sœurs derrière moi étaient des sœurs qui avaient fait, elles, la profession perpétuelle et qui étudiaient également à l'Institut Pontifical d'Études Arabes.
D'accord. C'est intéressant, vous ne trouvez pas, d'entendre tout ça? Merci pour les photos. Alors, écoute, moi, je voulais quand même te poser une question. On parlait cette semaine. Oui. À un moment donné, tu étais dans les ordres, mmh. Et tu as décidé de quitter.
Oui.
Donc, tu es devenu frustré avec beaucoup de règles humaines. C'est exactement ce qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Tu peux nous dire un petit peu de tes frustrations et comment tu es sorti des ordres?
Alors, la première frustration, c'est qu'on prononce des vœux de pauvreté. Alors, effectivement, on est pauvre, matériellement, on possède... j'avais le droit d'avoir ma Bible, mon livre de prière de l'office, éventuellement mon missel, et puis c'est tout. Le reste, les habits, tout le reste ne nous appartient pas. Alors, on était pauvres théoriquement, mais par contre, j'ai étudié à l'IPA, justement. On nous disait, bon, vous avez des choses à acheter. J'ai demandé, j'ai droit à quel budget par mois pour acheter ce qu'on nous conseille d'acheter. On m'a dit, ça ne vous regarde pas. Vous achetez tout ce qu'on vous dit d'acheter, le prix ne compte pas. J'ai jamais su combien avaient coûté les 2 ans d'études que j'ai fait là-bas. Ben, ça ne me regardait pas. Mais si je suis pauvre, je dois quand même savoir ce que je dépense. Une autre chose, on nous annonce à un moment que l'Institut, qui contenait, enfin, nous étions plus de 10 000 religieuses à l'époque, il allait adhérer à une caisse maladie pour les religieuses, et on nous a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'on ne peut pas payer pour les soins des sœurs malades, c'est pour aider les congrégations plus petites qui ont moins. Donc s'il y a plus d'adhérents, ça va être plus facile. Nous pouvons, c'était en 69, nous pouvons assumer tous les frais médicaux de potentiellement 10 000 personnes. Comment c'est possible? Si on est pauvre, c'est pas possible.
Donc ça, c'est deux illustrations, ça, voilà. Le genre de choses qui te...
Une autre chose, l'obéissance. On nous disait qu'il fallait obéir, alors selon la formule jésuite, comme un cadavre, c'est-à-dire sans penser. Alors, un cadavre n'obéit pas, et puis deux, Dieu nous a donné une intelligence et nous demande tout au long de la Bible de réfléchir, de savoir pourquoi on obéit. Et il y avait une autre chose que je n'ai jamais admise, on nous disait, si votre supérieur vous donne un ordre qui va contre votre conscience, vous devez obéir à la supérieure parce qu'elle représente Dieu dans la communauté. Et puis, moi je disais non, si ma conscience me dit que je ne dois pas faire ça, je ne le ferai pas. Mais on me disait, mais non, la supérieure prendra le péché sur elle. C'est inadmissible.
Donc ce qui est intéressant, Anne-Marie, c'est que tu étais religieuse, mais tu m'as dit aussi cette semaine que tu étais la seule qui avait une Bible. Et donc tu lisais la Bible en parallèle, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'est
ça. Alors au noviciat, nous étions plus de 50. J'étais la seule à avoir une Bible. J'étais la seule à avoir lu la Bible en entier. Les deux maîtresses de novices que j'ai eues, donc les responsables, avaient lu quelques passages du Nouveau Testament. Une sous-maîtresse qui aidait la maîtresse des novices, elle avait lu tout le Nouveau Testament. Et quand je suis partie du noviciat, j'ai laissé une Bible pour la bibliothèque, parce que j'avais deux Bibles, une Bible de poche et puis une Bible un peu plus grande. Et j'ai laissé une Bible pour la bibliothèque du noviciat. C'était la première Bible de la bibliothèque du noviciat.
D'accord. Et donc, alors, avec le temps, c'est simplement que tu comparais la parole de Dieu avec ce que tu vivais, et à un moment donné, t'es sorti. Comment t'es sorti?
À quel moment,
comment t'as fait? Tu pouvais plus vivre sous ces règles.
Il y a eu une circonstance. Ma mère est tombée malade, donc j'ai dû de toute manière aller pour la soigner, puisque je suis fille unique. Mais en même temps, j'avais déjà résolu et j'avais déjà indiqué que je ne renouvellerais pas mes vœux, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'hypocrisie et que c'était vraiment, c'était impossible, tout simplement.
Et donc alors tu as renoncé à cela, et comment, à quel moment tu as découvert l'Église évangélique? Est-ce que ça c'était un pas difficile pour toi?
Non, dans le sens que pendant encore plusieurs années, je me croyais toujours catholique, un peu bizarre parce que je lisais la Bible, mais c'était après Vatican II, donc on poussait les gens à lire la Bible. Donc je me disais, j'ai des raisonnements un peu différents parce que je lis la Bible. Et en fait, j'ai jamais, jamais, jamais eu de prêtres catholiques ou même de consoeurs qui m'ont dit que je n'étais pas catholique. Alors, à 40 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'Église catholique à la lumière de l'Écriture sainte » d'Henri Blocher. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas catholique. Et je suis sortie.
T'étais chrétienne.
Voilà.
Ben voilà, c'est aussi
tout.
Ça. Et puis, comment tu as découvert alors l'Église de la Servette ou l'Église évangélique à Genève?
Alors, j'ai d'abord essayé l'Église protestante, qui était encore l'Église nationale protestante. Et puis... j'ai entendu des choses on ne peut plus bizarres. Donc, à un culte de Pâques, j'ai entendu le pasteur dire « Jésus, qui croit-on, est ressuscité ?» Donc, puis après, il prie la communauté de venir prendre, partager le pain et le vin en signe de... Je ne savais pas de quoi. Moi, je suis restée assise.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu comparais tes expériences d'église avec la Bible, et finalement... T'es atterri dans une église qui enseigne la Bible.
Voilà.
C'est ça, aussi simple que ça.
Voilà. Et j'ai connu l'action biblique par la maison de la Bible.
D'accord. Voilà. Anne-Marie, je crois que c'est un témoignage vraiment intéressant. On l'applaudit, d'accord? C'est super. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est vrai qu'en préparant ce message cette semaine, j'ai pensé à elle parce que elle a vraiment compris ce qu'était être dans un système où les lois humaines deviennent plus importantes que la parole de Dieu, et qu'avec la lecture de la... J'ai des frissons là, y penser de la tête jusqu'aux pieds. Mais de réaliser que la parole de Dieu, mes amis, voici la parole de Dieu, et tout ce que nous faisons doit être évalué par la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait dans notre texte d'aujourd'hui. Il compare le système religieux des pharisiens avec la vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Et donc la conclusion, c'est justement que le chrétien authentique, à un moment donné, alors on ne sait pas, pour certains c'est immédiat, pour certains ça va prendre quelques années, mais tôt ou tard, on repousse tous ces rituels humains qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Amen. Seigneur, on va tous se lever, on va se lever pour prier. Seigneur, on réalise ce matin par ce message, mais aussi par le témoignage d'Anne-Marie, que c'est vrai, lorsque nous sommes en Christ, toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et parfois, c'est vraiment dur, Seigneur, de lâcher les choses du passé qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est là où ta grâce et ton esprit et des frères et des sœurs peuvent nous aider. Seigneur, moi je ne connais pas tout le monde ici, bien sûr, mais toi tu connais chacun. Il y a des gens ici qui ne connaissent même pas Christ. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de dire, moi je vais être en Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que ces gens-là ne quittent pas cet endroit sans savoir qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont pardonnés. D'autres, Seigneur, sont peut-être chrétiens, peut-être pas, mais dans les systèmes religieux, et ils s'y tiennent. Seigneur, moi je te prie de leur montrer ce qu'il faut faire, qu'ils doivent croire en Christ et ensuite lâcher ces choses. Et Seigneur, pour les autres qui sont chrétiens, qui marchent avec toi, qui comprennent ces choses déjà, Seigneur, qu'ils puissent te bénir et te remercier pour la liberté que tu leur donnes en Christ. Merci pour Anne-Marie, Seigneur, tu vois, ces changements de vie draconiens. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Nous te louons, nous te remercions, nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.